dans le parc une fois par mois. Des reportages et je m'évade depuis chez moi. Sur toutes les radios locales de mon Ardèche. Et puis c'est dans le parc, c'est pas banal. Des infos fraîches. Les pieds dans le parc, les pieds dans le parc, les pieds dans le parc. Les pieds dans le parc, les pieds dans le parc, les pieds dans le parc. Soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce mois-ci, on va prendre un peu de hauteur avec une petite balade au Mont Mézin, point culminant du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, qui est à la croisée des enjeux naturels, touristiques et paysagers. Dans un souci d'accessibilité et de préservation du site, nous allons partir à la découverte du chantier visant à créer un itinéraire pour accéder au sommet. Notre escapade commence à l'Office du tourisme des Estables avec Sophie Marion. Elle nous renseigne sur la fréquentation du site, le profil et les attentes des visiteurs.
Sur la communauté de communes, nos quatre antennes de l'Office de tourisme, on est autour de 9000 contacts accueillis à l'Office de tourisme sur les quatre sites. Les Estables, Monastier, Saint-Julien-Chapteuil et Failly-sur-Linan. Ils veulent un site accessible et des petites balades aussi beaucoup, mais quand même avoir un très beau point de vue. Beaucoup de gens sont compréhensifs, ils sont totalement d'accord pour préserver les paysages et que ça soit propre aussi. On a plusieurs PR sur toute la communauté de communes. Là, ici, aux Estables même, on en a 4, mais au total, il y en a 39 sur toute la Comcom. Plus les GR. Il y a beaucoup de gens du pays, enfin les gens qui sont de la Loire. Et après, c'est proximité, le Puy-en-Velay, Saint-Étienne, voilà, jusqu'à Lyon. Vu que c'est un site aussi qu'on veut préserver, on veut bien les envoyer aux Mézins, mais il faut les envoyer sur tout le territoire aussi. Autant sur le Mont-Signon, qu'on les envoie à Fresnay-la-Tour, à Moudère, à Bigorre. On leur propose toujours plein de choses et pas que le Mézin.
Rencontre également dans cet office du tourisme avec Damien Cocatre, chargé de mission espaces naturels sensibles et zones Natura 2000 au sein du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Il évoque les particularités du site, notamment au niveau de la faune et de la flore, et les enjeux d'un tel chantier.
Alors déjà, c'est le sommet le plus haut d'Ardèche et de Haute-Loire, ce qui fait qu'on a des conditions météo assez rudes, et on retrouve donc une faune et une flore typiques des Alpes, c'est-à-dire qui est adaptée à ce climat froid. Et en fait, il n'y a que sur ce sommet-là qu'on va retrouver certaines espèces.
Par exemple ?
Alors, on a le sénesson leucophile, donc qui est une petite plante jaune, et qui pousse que sur le sommet du Mézin et un peu dans les Pyrénées. Donc, c'est vraiment une rareté à l'échelle mondiale. Il y a les marmottes qu'on peut retrouver un peu dans les éboulis au pied du Mézin. On a le lycopode des Alpes, hein, qui porte bien son nom. On a aussi les landes subalpines, en fait. Donc, c'est tous les milieux ouverts qu'on va retrouver au sommet du Mézin et qui sont aussi des milieux très rares qu'on retrouve qu'à partir de 1500 mètres d'altitude chez nous en Ardèche et en Haute-Loire. Donc, c'est vraiment sur ces zones-là qu'on a ces landes-là.
Et elle est venue d'où, la décision d'aménager ce sentier ?
Voilà, alors c'est parti d'un constat collectif hein, au cours d'un comité de sites classés, puisque le Mézin est un site classé, où on a constaté justement une forte dégradation des sentiers et des landes subalpines dont je parlais juste avant. Parce que les gens, justement, du fait de l'inconfort des sentiers, vont justement marcher à côté. Ils vont éviter justement le sentier, et ce qui va piétiner la lande. Et au bout d'un moment, elle va disparaître. On va retrouver la terre. Et donc, on souhaitait préserver ces landes et cette flore si rare.
Alors, qu'avez-vous décidé de mettre en place ?
Le but, c'est que les gens restent sur les chemins. Donc, on est allé chercher des idées ailleurs, notamment les filins. Donc, c'est des fils en acier. Qui vont être placés sur des piquets, qui vont matérialiser le sentier pour éviter que les gens aillent débordent et sortent du sentier. Donc c'est une des premières solutions. C'est une sorte de balisage, mais physique, hein, parce que la simple peinture sur les cailloux, des fois, ne suffit pas. Et en plus de ça, on va mettre en place des murets sur des zones un peu stratégiques où les gens vont pouvoir s'asseoir et contempler le paysage, mais qui va aussi permettre de délimiter le sentier et empêcher les gens d'aller au-delà de ce muret en pierre. Et bien sûr, ce sera des murets en pierre sèche. L'objectif final, c'est que tous les sentiers qu'on va fermer, qui se sont ouverts de manière sauvage ces dernières années, on va essayer de les renaturer. Alors, il y a plusieurs systèmes. Soit on va poser un filet coco qui va permettre de maintenir la terre et de fixer les graines, et ce qui fait que la végétation va revenir plus vite. Ou alors on va poser des andins, donc c'est des branches qu'on prendra dans les arbres sur place et qu'on va poser sur le sentier, et ça fera un peu le même mécanisme où ça retiendra les graines et ça empêchera les gens d'aller sur les sentiers. Sur ce projet, ça a été un gros travail de partenariat, hein, puisqu'on est sur deux départements, on a plusieurs communautés de communes, plusieurs communes. Voilà, donc on a organisé beaucoup de réunions avec un bureau d'études pour réfléchir ensemble, tous ensemble, à comment on allait aménager ces sentiers. Donc il y a des choix qui ont été faits collectivement, par exemple la création de nouvelles déviations, la fermeture de certains sentiers, l'ouverture d'autres, tout ça pour préserver cette faune et cette flore.
Il y a d'autres choses qui vont être mises en place, peut-être que de la pédagogie vis-à-vis des visiteurs avec des panneaux explicatifs, ce genre de choses.
Alors ça, c'est prévu dans un second temps, bien sûr. Donc il y a toute la signalétique à revoir pour bien expliquer aux gens qu'il faut rester sur les nouveaux sentiers. Hein, c'est bien l'objectif final. Et en plus de ça, c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on organise une médiation humaine, c'est-à-dire qu'on missionne des accompagnateurs en montagne pour être présents toute l'année sur le site et informer les visiteurs de la fragilité du site et de bien rester sur les sentiers. On conseille de garder les chiens en laisse, justement, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des marmottes qui sont présentes, et si les chiens dérangent les marmottes continuellement, elles vont pas pouvoir faire leur réserve de graisse pour passer l'hiver tranquillement.
Il y a beaucoup d'autres sites comme ça sur lesquels vous souhaitez intervenir à l'avenir pour permettre à ces espaces remarquables, à cette biodiversité qui nous est chère, et au tourisme de cohabiter ?
Alors, ben, on peut citer le cas du gerbier de Jonc, mais c'est quelque chose qui a déjà été traité par le département de l'Ardèche, où ils ont déjà organisé la pratique, la fréquentation du site. Donc on est en train de faire la même chose sur le Mézin. C'est à peu près les deux sites les plus fréquentés sur la montagne ardéchoise.
Direction ensuite le chantier, malgré une météo pour le moins capricieuse, rencontre avec Antoine Brousse du bureau d'études 2AMO qui assure le suivi des travaux. Il nous fait part de son expérience et nous précise son rôle au sein du projet.
Au départ, il y a le projet qui a été construit par le PNR et par l'ONF où ils ont monté un projet avec l'ensemble des plans, du chiffrage, de tout le déroulé des travaux, toute la construction des travaux. Et moi, mon rôle, ça va être de vérifier que le cahier des charges de départ, que le projet qui est monté, et bien réalisé par l'entreprise conformément à ce qui était prévu et d'avoir un suivi après du planning de chantier parce que c'est un chantier qui va s'étaler sur un an et demi. L'objectif est de finir l'ensemble des travaux fin 2023. La partie au démarrage des travaux qui a été particulièrement demandée dans le cahier des charges et surveillée, c'était justement d'implanter les espèces protégées, de voir vraiment les zones à conserver, à préserver dans le cadre des travaux, parce qu'on intervient, bon, c'est beaucoup de travaux manuels, mais il y a quand même des engins de chantier qui évoluent sur tout le long du sentier. Donc c'était voilà, déjà piqueter toutes les espèces protégées sur les 3 km de sentier à peu près à aménager. Donc ça a été une période au démarrage de chantier où on a implanté tout ça, qui a pris un peu du temps, et de voir les contraintes avec l'entreprise, comment on faisait pour éviter les espèces protégées, passer à côté, voilà. Ça a été une partie assez importante avec d'autres contraintes qui interviennent, mais qui étaient clairement définies dans le cahier des charges, des contraintes de temps où on ne pouvait pas intervenir sur certains secteurs. Justement vis-à-vis des espèces protégées ou de la faune, des oiseaux, de la nidification, des secteurs qu'il fallait éviter. Donc c'était très bien identifié dans le cahier des charges, mais du coup s'assurer que ce soit vraiment suivi et faire le lien entre l'entreprise et puis ceux qui pilotent un peu cet aspect environnemental, donc avec Damien au PNR et les autres intervenants. C'est très formateur, le cadre naturel est assez exceptionnel et puis les contraintes font que le chantier reste assez pointu sur certains aspects.
Et parmi les entreprises actives sur le site, on trouve Jardins et Paysages du Haut-Lignon, une entreprise locale. Guillaume Montluçon nous précise leur réalisation in situ.
J'ai vu cet appel d'offres qui est passé, j'ai tout de suite dit ça c'est un truc qui m'intéresse. C'est le plus haut sommet de notre région, c'est un truc sympa à faire et on s'est positionné dessus quoi. On a déjà travaillé sur des zones naturelles, sur des zones humides, donc oui, on est habitué à ce genre de chantier quoi. On a fait une première réunion ensemble avec le parc et puis après il a fallu trouver un peu les autres entreprises pour qu'on puisse répondre à plusieurs aussi quoi. Là, il y a Megalith, une boîte de réinsertion, ils font tout ce qui est pierre sèche et murée. Nous on est plus là pour la partie mécanisée et puis pour l'expertise aussi quoi. On a du petit matériel, donc ça nous prend un peu plus de temps, mais c'est un peu la clé, c'est du temps quoi.
Comment vous travaillez concrètement par rapport à un chantier plus classique ?
On travaille pas mal avec les plans, on travaille pas mal avec Antoine, on fait des réunions régulièrement. Donc après on sait à la semaine ce qu'on a à faire. Et puis après c'est un peu le toucher du professionnel. On a ouvert le chemin pour pouvoir accéder jusqu'au sommet, pour pouvoir monter les pierres et monter tous nos matériaux. Après, on part du sommet jusqu'en bas et c'est beaucoup, beaucoup de la construction en pierre sèche, quoi. Il y a une grosse partie filin avec des piquets en acier qu'on a préparé en atelier et qu'on est en train de poser. Pour les filins, c'est pour que les gens soient rescanalisés sur le chemin principal, quoi. C'est pour éviter que tout le monde y vague de partout, quoi. On va couper quelques arbres pour les mettre dans les chemins qu'on ne veut plus utiliser, pour empêcher le passage et encore une fois, rester sur le parcours, le vrai parcours, quoi.
Avec parfois plus de 2000 visiteurs quotidiens en juillet et en août, et grâce à ce très beau projet, les marcheurs ne devraient à l'avenir plus s'éparpiller n'importe où dans cet espace naturel sensible et pourront ainsi, pendant encore longtemps, continuer à mettre les pieds dans le parc.
Je mets les pieds dans le parc une fois par mois, des reportages et je m'évade depuis chez moi. Les radios locales de mon Ardèche, les pieds dans le parc, c'est pas banal. Des infos fraîches, les pieds dans le parc, 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 les pieds dans le parc. Soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes.